commencer avec ce sujet sur l'Église. Voilà. Dans l'Église, donc, je vous propose ces deux passages ces deux paroles de Jésus qui dit Luc 9, 50, celui qui n'est pas contre vous est pour vous, et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça me paraît être les bases essentielles de la communion chrétienne. Et autrement dit, pour être dans la communion chrétienne, il faut être avec Jésus. Mais pour être dans la communion chrétienne, il ne faut pas être contre l'Église. Alors bien sûr, dans Luc, il n'est pas question de l'Église. Puisque l'Église ne commence qu'à la Pentecôte. Hein, la Pentecôte, c'est ce qui caractérise l'Église. Vous savez, la pente, la côte. Non, je rigole. Ça, c'est pour ceux qui roupillent. Et du point de vue pastoral, par exemple, il faut savoir qu'une des premières douleurs des chrétiens, c'est de savoir où est l'Église. Hein? J'ai fait la connaissance d'un prêtre avec lequel je suis entré en discussion assez profonde. Et pour lui, ce qu'il recherche, c'est de savoir où est l'Église. Et il est rassuré parce que dans le catholicisme, il sait où est l'Église. On dit strictement où est l'Église. Je lui ai dit, attention, ça c'est un grand piège. Et donc, il y a une sorte de volonté légale, de fausse sécurité du chrétien de vouloir savoir où est l'Église. Les deux paroles de Jésus, pour moi, définissent un cadre très très précis, mais très très ambigu aussi. En fait, qui nous place un peu dans cette liberté des enfants de Dieu, mais dans cette absence de sécurité. Par exemple, on m'a souvent dit, j'aimerais connaître la vérité. Et je réponds, mais la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est quand on lit un texte, c'est d'écouter le texte. En fait, mais personne ne peut dire, voilà le commentaire du texte. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et donc, on a une approche, on voudrait avoir une approche sécuritaire en disant, voilà, on a écrit, en fait, la confession de foi, le catéchisme, tout le monde est dans le même sac, en fait. Alors que, et ça, c'est une fausse sécurité. Et dans l'approche pastorale, il faut bien comprendre que nous avons besoin de cette dimension-là. Mais que paradoxalement, si on va dans ce sens, le souffrant, pour le libérer, il faut le placer en insécurité. Il faut le libérer, en fait. Il faut le libérer, mais il faut le libérer dans une direction qui le rend libre, dans la vérité qui le rend libre, pas dans n'importe quoi. Concrètement, le souffrant qui est mal dans une église, il va dire, mais je quitte mon église parce que ce n'est pas la vérité dans l'église. Donc, pour moi, première remarque qui va vous faire réagir, mais ça ne fait rien, c'est qu'il préfère la vérité à ses frères et à ses sœurs. Déjà, dans sa motivation, comme Jean-Paul le soulignait tout à l'heure, c'est pas bon, en fait. Hein? C'est-à-dire, en fait, si, par exemple, il est rejeté de l'Église, alors qu'il va pas dire « je quitte l'Église », il va dire « je suis rejeté de l'Église ». C'est pas pareil. Hein? Mais finalement, tant que tu peux travailler à ce que la compréhension de la connaissance de la personne de Dieu, la connaissance de la personne de Dieu et la compréhension de ce que Dieu veut que nous fassions, et tant que c'est possible, alors on travaille dans l'Église. On y est. Et on fait du bien. Et on rayonne, on construit, on apporte des choses positives. Et donc, comment est-ce que nous, on va accueillir quelqu'un qui va dire, mais moi, je veux quitter mon église? Alors, je ne veux pas donner de mode d'emploi parce qu'il n'y en a pas. Dans un sens, tout est cas particulier. Mais en tout cas, l'examen des motivations est essentiel. Comme dirait Jésus en Matthieu 6, 28, par là, hein, pourquoi êtes-vous en souci? Autrement dit, quel est l'examen? Hein, on a à faire un examen de nos motivations. C'est quoi notre souci dans l'Église? Et donc, je dirais que il y a des règles générales comme celle-là, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Et puis après, il y a tout un ensemble de champs d'application qui dépendent étroitement justement de la famille, enfin de l'individu, de la famille, de l'Église, des circonstances et de la connaissance de la personne et qui vont faire que la personne va faire un choix et on ne peut pas dire nous qu'elle a raison ou qu'elle a tort. C'est le choix de la personne. Mais par contre, on peut l'aider dans l'examen de ses motivations et bien sûr dans les repères qu'elle va prendre. Et alors, très rapidement, regardons dans l'Église et la Bible certaines choses qui peuvent poser problème dans la vie ecclésiastique de quelqu'un. Hein? Si quelqu'un lit l'Ancien Testament en disant, ben moi, je vais rencontrer quelqu'un qui est médiateur entre Dieu et moi parce que le peuple d'Israël allait rencontrer le sacrificateur, alors il faut qu'on sache comment répondre. Parce que cette personne, dans un sens, s'emprisonne. Il faut qu'on puisse lui dire, oui, mais 1 Timothée 2, verset 4, nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme, Christ Jésus. Et quand quelqu'un me dit, mais moi, de toute façon, je regarde dans l'Évangile ce qui est dit de l'Église, et je prends toutes les recommandations évangéliques pour l'Église, je dis, mais dans l'Évangile, il est question que deux fois de l'Église. Donc attention. Et encore, c'est au futur, et que veut dire Ecclésia? Hein, parce que Église, Ecclésia, en Matthieu 16, en Matthieu 18, ce n'est pas forcément l'Église après la Pentecôte. Hein, assemblée, c'est très très complexe de répondre à ça. Et donc, faisons attention à notre lecture. Hein. Il y a une lecture de l'Évangile que le souffrant peut faire et qui lui fera du mal s'il insiste trop sur l'Évangile. Par contre, après la Pentecôte, alors l'Église commence à vivre, et c'est là où il faut qu'il puise sa connaissance de l'Église. De sorte que l'Église vit, par exemple, dans les actes des apôtres, et l'Église est présentée doctrinalement dans les épîtres. L'Apocalypse étant l'avènement du roi. Autrement dit, l'avènement du royaume. Et donc, le souffrant, il va dire, ben d'abord, par exemple, pour prendre des choses très simples, il va dire, mais moi, chez moi, on appelle assemblée, j'ai envie d'appeler église. Hein, nous, on est un petit peu à la croisée des chemins à ce niveau. Hein. Et c'est vrai que le mot église est traduit de ecclésia. Pour moi, qu'il soit traduit par assemblée, c'est invraisemblable. Il y a eu une volonté du traducteur de s'opposer et de réagir face à un usage donné. Hein, et qui fait que aujourd'hui, dans la pensée collective, quand on parle d'église, je vais à l'église. Si on dit sur la place du village, je vais à l'église, c'est je vais à l'église catholique. Et il y a. Comment dire, est-ce qu'on fait les choses, c'est très compliqué, est-ce qu'on fait les choses pour se différencier, pour se faire connaître ou pour être? Moi, personnellement, je ferais plutôt les choses pour être que pour me faire connaître. Hein? Et donc, Église, c'est bien, Église, ça veut dire ce que ça veut dire. Ecclésia vient de ekkaleo, qui veut dire appelé hors d'eux. Autrement dit, Dieu appelle finalement le chrétien à être en dehors du monde avec ses principes du monde. Pas de la société, hein, du monde, les principes du monde. Et donc, le souffrant, il dit finalement, église, assemblée, rassemblement, communauté, etc. Voilà. Je pense que pour moi aujourd'hui, un très mauvais mot, c'est quand même réunion chrétienne. Hein, ce qui est sur notre plaque. Voilà. Je vais à réunion chrétienne.
Même pas français.
Et donc, je ne sais pas ce que vous avez, vous, à Nîmes? Réunion chrétienne? Assemblée? Et je trouve que il faut. Et il y a des gens qui peuvent avoir honte, en fait. Hein? Mais moi, quand je dis aux gens, venez à réunion chrétienne, je veux dire que ça ne veut rien dire, en fait, dans un sens. C'est ce qu'il y a sur notre plaque. Sur notre plaque, hein? Voilà. Alors, donc, et je pense qu'il faut. Il y a un ensemble de petites choses, en fait, de laquelle il faudrait que les souffrants puissent ressortir. Et il faut qu'on s'en occupe. Oui.
Dans ta douleur, on a changé notre plaque. Avant, il y avait, je crois, l'Assemblée chrétienne, tout comme ça. Alors, il y a eu pas mal de réunions comme ça, des débats, palabres, coups de fil, etc. Et finalement, on est resté sur l'Église protestante évangélique. Mais il y a un frère qui a failli ne plus venir à cause de ça. Alors, on lui a expliqué pourquoi. Ce n'est pas pour nous, parce que nous, on savait où on allait, mais c'est pour ça qu'il est parti dans la rue. Il dit, où on est catholique, hein? Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des musulmans. Il faut bien qu'on marque là. On n'est pas des musulmans, on n'est pas des catholiques, on sait qu'il y a la mission protestante, on sait qu'il y a des catholiques. Mais ça a duré des mois.
C'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion à l'égard de nos difficultés d'usage, hein, qu'on reste dans une simplicité qui nous permette finalement de vivre tout en sachant que on connaît qu'en partie, hein, de toute façon. Ce qu'on vit, c'est on le vit dans un sens tant bien que mal, mais on le vit quand même. Hein, allons-y. Et donc, le fait qu'on puisse avoir un nom tout à fait clair et accepté entre nous, fait que de manière pratique, ben on va dire, voilà, hein, l'Église pour moi c'est ça. Hein, un jour j'ai posé la question à quelqu'un qui enseignait dans le milieu ecclésiastique que je fréquente. Je lui ai dit, c'est quoi une Église locale? Et il m'a dit, ben, excuse-moi parce que je ne peux pas te répondre. Et donc, le terme qu'on va utiliser est important, et donc à nous de voir finalement qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et donc le souffrant, ben, il peut dire, dans ma ville, il y a quantité d'églises différentes, pourquoi y aurait-il une meilleure que les autres et pourquoi devrais-je choisir? Alors, dans un sens, ma difficulté, c'est que moi, ben, j'y suis, en fait. Mais je peux aussi témoigner que y étant depuis 1982, savoir 29 ans, c'est pas facile d'y rester. Et c'est peut-être aussi difficile d'y rester que de partir ou d'arriver autre part. De toute façon. Hein? Et dans un sens, rester quelque part, c'est un acte d'amour vers mes frères et mes sœurs, qui est à peu près le même que aller quelque part, qui est un acte d'amour vers des frères et des sœurs. Hein? En tout cas, là où je m'insurge, c'est ça. Il n'y en a pas une meilleure que d'autres. L'église, la meilleure église, c'est celle où je suis ou c'est celle où je vais aller, point. Et donc, à nous de faire en sorte que ce soit bien clair, en fait, dans ce que nous pensons. Le meilleur service, à mon sens, qu'on puisse rendre à un souffrant, c'est de dire, voilà, voilà mon témoignage, je me suis impliqué, pas dans l'église, avec mes frères et mes sœurs, pour les connaître, pour réjouir avec eux, pour collaborer. C'est pas facile. De toute façon, tout est difficile. Et si on reste bien dans ces principes d'action de Jacques, qu'on a vu hier soir, hein, tout est difficile, on ne fait pas acception de personne, toute action a une plus-value, on commence à agir en parlant, toute action doit comporter de la sagesse et puis de la en attendant de la patience. Hein, voilà. Et donc, voilà, être dans l'Église, c'est difficile. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Autrement dit, si on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure à l'égard de la paix, que les relations soient justes entre nous. Et c'est tout un travail. Hein, on l'a vu, il y a les choses qui tendent, il y a le chemin de la paix, il y a ce que je ressens qui est différent de ce que je pense parce que c'est la sonnerie, ça n'a pas encore justement produit son effet. Hein, je suis encore blessé de ceci ou de cela et ça me gêne. Hein, voilà quantité de choses pour le souffrant. Autre réaction de personne, pour moi, il n'y a qu'une église formée de tous les vrais croyants. J'ai beaucoup de mal à vivre le cloisonnement actuel entre les différentes confessions. Faut-il se laisser enfermer? Et donc, on est un petit peu dans ce dont Chan parlait tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas se laisser enfermer. On n'est pas enfermé si on ne se laisse pas enfermer. Si on est libre intérieurement, personne ne peut nous enfermer, en fait. L'Église est une. Donc, en fait, si des gens prêchent le cloisonnement, c'est eux qui le prêchent. Quand quelqu'un est blessé du cloisonnement, ben, il faut lui dire, mais qu'est-ce qui te blesse, en fait? Ce que les autres disent. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ce que les autres disent? Ah, ils le disent. Oui, mais ils ont le droit de le dire. Après, c'est dans un sens... au conseil d'église de faire le ménage. Eh oui. Voilà. Mais être soumis à l'autorité, c'est aussi aider l'autorité. Tu peux parler à l'autorité. Tu as bien une place dans... Pardon ? Voilà. Tu as fait ce qui relève de ta responsabilité. Mais attends, mais il y a une église où les gens sont d'accord ensemble ? Mais tu es grillé par les gens, mais toi, ça ne veut rien dire, en fait. Ah, mais ça, oui, mais ça, c'est un cas particulier. Si ton truc, c'est d'exercer dans l'Église, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Ce que Dieu t'appelle à faire, personne ne peut le... De toute façon, tu as tort. C'est-à-dire que, Chan, personne ne peut nous empêcher de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà, ça, c'est mes gammes, ça. C'est mes fondamentaux. Non, non, non. Tu peux aller ailleurs, mais pas systématiquement. Tu comprends? C'est-à-dire que la question, tu vas ailleurs suivant les motivations qui te poussent. Si tu, Chan, fais gaffe, parce que tu es en train tu comprends? Restons sur les fondamentaux. Tu vas ailleurs si le Seigneur t'appelle à aller ailleurs. Comme tu l'as dit, tu vas ailleurs en communion avec tes frères. D'accord? Hein? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Non.
Tu expliques ça, tu donnes le fondement de l'Église, c'est bien. Mais le problème, c'est que quand il y a une souffrance, eux, ils peuvent ne pas mettre ça.
Mais ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas notre problème.
Mais tu vis la souffrance.
Mais tout est difficile dans la vie. Hein? Ça m'intéresse bien que tu dises ça, parce que ça montre qu'en fait, il y a des choses qui ne sont quand même pas rentrées. Hein? Tu comprends? Il ne s'agit pas que nous refusions quelque chose parce que c'est trop difficile.
C'est par rapport à rester ou quitter l'Église.
Mais on est dans un faux débat avec ça. Parce que le problème, le vrai débat, c'est quelles sont nos motivations. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas quitter l'Église. Je dis qu'il ne faut pas que nos motivations... Hein? Voilà. Question suivante. Dans l'église dont je fais partie, je ne reçois pas tout ce que j'aimerais. Je suis souvent frustré et je me demande si je ne dois pas aller ailleurs où je recevrai peut-être plus. Bon. Donc, la question, c'est ici, qu'est-ce que la personne veut recevoir? Je ne reçois pas tout ce que j'aimerais. Eh oui, mais il y a quelque chose de tordu là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce que quelqu'un qui vient dans l'église peut savoir tout ce qu'elle doit recevoir? Franchement. C'est tordu, là. Il y a un but qui n'est pas un bon but. Dans l'église, on vient là pour rencontrer Dieu, pour rencontrer nos frères et sœurs, et après, il se passe ce qu'il se passe. Si on n'ouvre jamais la Bible, alors la question, c'est est-ce que c'est une église? Mais si on ouvre la Bible et qu'on y fait des commentaires, comment est-ce qu'on peut dire que, globalement, les commentaires ne sont pas bons? Il y a quelque chose qui n'est pas juste, là. C'est pour ça que, attention, je suis en train de parler de fondamentaux, et vous êtes en train de penser à des cas particuliers. Hein? Et c'est là où il faut vraiment rester dans ces fondamentaux-là. Si nous, on veut aider en pratique pastorale, il faut qu'on soit sur nos fondamentaux. Voilà. Voilà. Et à ce compte-là? Voilà.
Si tous les dimanches, chaque fois qu'il y a une réunion, tu ressens ce problème-là, c'est qu'il y a quand même des problèmes.
Voilà. Et dans toutes les églises, il y a des problèmes. Donc on est d'accord.
Mais pour moi, ce n'est pas un argument pour toutes les églises. Non, on est d'accord.
Et on n'est pas du tout en train d'argumenter pour ne pas quitter l'église. On argumente pour que nos motivations soient des motivations selon Dieu. Et nous, on n'est pas en train d'argumenter sur l'Église. On est en train d'argumenter sur comment aider un souffrant à se retrouver. Le souffrant qui est là et qui dit « ce que j'entends ne me convient pas ». Franchement, comment est-ce qu'il peut dire « ce que j'entends ne me convient pas » ? Dans les trois clés, on va dire au souffrant « bon, liste des souffrances, ce que tu entends ne te convient pas. Pourquoi ça ne te convient pas ?» Ah ben, De toute façon, celui qui parle, je le connais très bien. Il m'énerve. Voilà. Hein? Deuxièmement, tu as vu le conseil des anciens. Comment ils se font entre eux? Hein? Et puis on n'évangélise jamais, ou on évangélise trop. C'est un faux débat tout ça. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, l'examen des motivations, c'est l'ouverture vers le ciel. C'est l'oxygénisation, hein, de notre vie spirituelle. Ben oui. Exactement. Exactement. Continuons un petit peu à voir ce que vit l'Église comme ça, mais en regardant du point de vue pastoral. À Jérusalem, en Actes 2, 41-42, il y a donc, si j'ai bien compté, 3120 chrétiens. Parce qu'ils sont 120. Vous savez, c'est pas en fait 20 Milan dans un pré, 120 dans l'autre, hein, c'est pas ça. Hein. Hein, voilà. Non, ils sont 120 disciples, hein, dans la chambre haute, etc. Il y a 3000 convertis, donc j'entends qu'ils sont 3120. Et donc, je lis, hein, verset 44, je crois, qu'ils prennent la Sainte Seine, dans leur maison. Donc je dis, une maison qui pourrait contenir 3120 personnes, hein, chez moi, on en est loin quand même. Hein. Hein, chez Jacques, c'est un peu plus grand, mais... Bon, alors, donc, c'est quoi l'église locale? Voilà, il faut arrêter avec l'illusion de penser que 3120 personnes sont ensemble, chantent dans le même recueil, ont la même compréhension des choses, se réunissent à la même heure et de la même manière. Voilà, il y a des chrétiens à Jérusalem. Est-ce qu'il faut forcément que les 3120 fassent une fédération des 3120? Nous sommes vraiment les chrétiens apostoliques, 3120. Mais par contre, il n'y a plus de place, le 3121e. Voilà, trop tard. Voilà. Mais par contre, On voit en acte 9 que les églises étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur croissaient. On a l'impression qu'il y a un mouvement quand même commun. Ils se connaissent, ces gens-là. Ah, ça c'est beau, ça. Ils se connaissent. Ils ne sont pas forcément d'accord, mais ils sont édifiés, ils font des choses. Ils font peut-être des séminaires dans un centre comme ici qui ne s'est pas encore appelé Faculté Jean Calvin. Hein, mais ils se rencontrent, et les uns sont d'ici, les autres sont de là, et c'est magnifique. Et ils croissent, hein, ils sont édifiés, ils marchent dans la crainte du Seigneur, et ils croissent. Alors là, si c'est un cap pour le souffrant, alors je crois que du point de vue ecclésiastique, il sort de sa souffrance. Le problème, c'est que pour le souffrant, c'est aïe, 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 quel temps de ruine, les églises sont divisées. Mais où est la division, en fait? Comment est-ce que tu veux faire une cohérence dans les 3120? La division, elle est dans ton cœur. La division, elle est dans une espèce d'idéal absurde que tu t'imposes, en fait. 3120, ils sont là, en fait. On ne sait pas trop où ils sont. Ils se retrouvent à la synagogue, parce que, ou à, au temple, parce qu'il y a de la place. Mais après, peut-être qu'il n'y a que 2667 places dans le temple. Alors peut-être qu'ils se sont débrouillés pour qu'il y en ait quelques-uns qui soient à côté et que Pierre va voir alors que c'est Jean et Jacques qui parlent dans le temple. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et donc attention aux faux idéaux, attention aux idéaux absurdes. Et sachons, nous, du point de vue ecclésiastique, discerner les souffrances. À Antioche, acte 11, pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'église et enseignèrent une grande foule. Ben, voilà, hein. Là, alors apparemment, ils sont plus dans le temple, hein. Il y a des synagogues, et puis ils se réunissent dans l'église. Ah, pourtant, on n'est pas encore en 70, le temple n'a pas été détruit. Donc, ça veut dire que l'église s'organise un peu, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que là qu'ils peuvent se réunir? Pas sûr. Et donc, il y a des prophètes, il y a des docteurs. Et moi, j'ai reçu une personne qui m'a dit, voilà, j'ai un don de prophète. Le problème, c'est que personne ne me croit. Sérieux, hein? Je rigole pas. Hein? Hein, je cite personne, voilà. Hein, c'est... Mais j'ai un don de prophète, mais personne ne me croit. Tu dis? Que lui. Et donc, cette personne était en grande souffrance parce que son utilité, sa valeur devant Dieu était dans l'exercice de son don de prophète. Alors, c'est là où, du point de vue pastoral, on peut affirmer que cette personne-là est trop dépendante, comme on l'a vu hier soir, des autres. Si elle a un don, qu'elle l'exerce. Si son don n'est pas reçu, ce n'est pas son affaire, en fait. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle le dise. Voyez comme à nous d'être sur nos fondamentaux, principe de responsabilité. En fait, il n'y a pas de plus grand bonheur que de mettre en œuvre ce que Dieu nous donne. Après, comment c'est reçu? Ce n'est pas notre affaire. Pour ne pas être découragé, dit Hébreux 12, verset 3, il faut considérer celui qui a été l'objet de la contradiction de la part des pécheurs. On regarde comment est-ce que Jésus a fait. Jésus, il a été bien accepté? Non. Jésus, il a été contredit par les chefs religieux? Oui. Ils sont même venus pour le faire se tromper, pour l'éprouver. Bon, d'accord. Donc, en fait, la vie dans l'Église n'est pas évidente. Mais nous ayons cette conviction personnelle et vous voyez que j'ai de la liberté pour vous dire voilà ce que je pense, mais aussi j'ai de la liberté pour vous laisser penser ce que vous avez à penser. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche à rester sur l'explicite de la parole de Dieu. Hein? Et le souffrant, quand il souffre, c'est parce qu'il n'y est pas, en fait. Alors, à Antioche, presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu. C'est très beau. Hein? On aimerait dire, à Aix-en-Provence, 140 000 habitants, hein? Presque toute la ville fut assemblée pour entendre la parole de Dieu. Bon. Mais pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Autrement dit, ce qui est générateur de souffrance, c'est qu'on donne plus d'importance aux commentaires qu'à la parole de Dieu. C'est un malheur universel. Les commentaires, mais on en a besoin, dans un sens. Parce que pour que l'enfant devienne adulte, selon Galates 4, il faut qu'il soit sous des tuteurs et des curateurs. Il faut quand même apprendre à l'enfant à devenir adulte. L'enfant, il devient adulte avec le modèle des parents. Et dans l'Église, il y a le modèle de ceux qui conduisent. Il y a des commentaires, il y a des manières de vivre, de faire, d'enseigner. Mais ne soyons pas, comment dire, quand quelqu'un vous fait une prédication et commence par dire son commentaire, vous devriez lui dire, halte là, commence par lire la parole de Dieu et après tu la commentes. Hein? Je crois que là, il y a une exigence en fait. Quand je dis quelque chose, est-ce que je pars de la parole de Dieu pour en dire comment est-ce que je la comprends? Ou est-ce que je veux dire en fait l'idée que j'ai dans la tête? Alors l'idée que j'ai dans la tête, elle vaut rien. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et le souffrant, là, voilà, là où il a perdu un cap important. Alors à Lystre, Iconium, Antioche, ils ont choisi des anciens dans chaque assemblée. Alors, moi je suis dans une assemblée glorieuse parce que nous avons choisi les anciens. Et j'en connais plusieurs qui n'en ont pas choisi. En fait, je ne parle pas de moi. Hein. Justement, chez nous, il n'y en a pas. Et donc, et j'en connais plusieurs qui n'ont pas d'anciens dans leurs assemblées. Alors, d'après Actes 14, 23, ils n'ont rien compris, en fait. Voilà. Et donc, voilà comment on crée de la souffrance, en fait. C'est évident que dans chaque église, il y a des gens qui conduisent. Celui qui conduit en particulier, c'est celui qui a la signature sur le carnet de chèque. Il fait partie des décideurs, il conduit. Il y a des conducteurs dans toutes les églises, forcément. Forcément. Et donc, des gens qui conduisent, il y en a. Mais les gens qui conduisent, comme on l'a vu hier, ce sont des gens qui se sont cassés la figure et qui ont l'expérience, en fait, de la vie. Ce sont des gens qui ont souffert. Ce sont pas des gens qui ont un mérite. Ce sont pas des gens qui ont un privilège de conduire. Ce sont des gens qui ont une charge. Et qui sont devant. Voilà. Les souffrances, c'est de dire, ah, je serai bientôt ancien. Et j'ai eu 14 votes. Et il fallait 10 votes, j'en ai eu 14. Hein, voilà. Et comprenez que je me moque un petit peu. C'est pas gentil de se moquer. Hein. Voilà, mais c'est ça qui est générateur de souffrance, en fait. À nous, dans les fonctionnements d'Église, de savoir comment ne pas générer les souffrances, comment ne pas attiser les convoitises, comment ne pas mettre en avant et en arrière des gens. On est tous ensemble, en fait. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit tous d'accord pour que quelqu'un fasse quelque chose. C'est très bien. Mais à ce compte-là, il n'y en a pas qui sont en avant et en arrière. On est tous d'accord. Cette expression d'Acte 15, 22 avec toute l'Église. Ça, c'est beau, ça. Et c'est vraiment souhaitable. Quand on n'est pas avec toute l'Église, il y a quand même des choses qui ne marchent pas bien. Cette expression d'Acte 15, 41, fortifiant les Églises, les assemblées. Autrement dit, voilà, là où il peut y avoir des souffrances générées, ce que je fais, ça fortifie l'Église ou pas? Est-ce que mon ministère est un ministère de destruction en disant bah, ceux-là ils ont tort, ceux-là ils ont tort, etc. Ou un ministère de construction en disant à chacun implique-toi dans ton église. Tu es là, c'est très bien. C'est bien, vas-y, continue. Ah, mais c'est trop difficile. Non, il n'y a rien de trop difficile. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. On est sur les fondamentaux. On reçoit quelqu'un qui souffre de son église. Mais d'accord. Dans l'église, il faut que les chrétiens soient affermis dans leur foi. Il n'est pas dit forcément affermis dans leur connaissance, dans leur foi. Ce qui doit être affermi, c'est la foi, c'est la relation à Dieu de laquelle découle toute chose. Bien sûr, la connaissance libère. Je ne suis pas, moi, en train de vous dire que la connaissance ne sert à rien. Mais je veux dire que là, dans Acte 16, verset 5, il s'agit d'être affermi dans la foi. si le discours du curé, du pasteur, du prophète n'affermit pas dans la foi, quelle est notre responsabilité? C'est de... Non. Si le discours... Oui? Ben oui, d'aller lui dire. D'aller lui dire, mais c'est marrant parce que dans ce que vous avez dit, dans ce que tu as dit, je ne suis pas affermi dans la foi. Alors, franchement, c'est un service à me rendre. Si à un moment donné, je dis quelque chose et que vous sentez que ça ne vous affermit pas dans la foi, eh bien, dites-le-moi. Dites-le aux gens qui agissent dans l'Église de manière générale. Dans la relation avec Dieu. La foi, c'est la relation. Après, oui, dans la maturité, dans différentes choses. Hein? Remarquons que Paul, en Actes 18, 22, salue l'Église. Autrement dit, il y a des choses simples, saluées. Hein? Peut-être que le souffrant n'a pas conscience, dont le souffrant n'a pas conscience de l'importance. En fait, à nous de ramener la personne qui souffre à des choses de tous les jours. Waouh ! On prend 2 minutes à se regarder, à s'embrasser ou à se serrer la main ou à être à côté. On parlait ce matin avec Pierre de ces traditions étrangères, hein, d'autres, de personnes qui ne sont pas français, d'avoir une sorte d'éloignement. On se dit bonjour, mais on ne se serre pas la main, on ne s'embrasse pas. Nous, dans notre pays, on est relativement, ça dépend un peu des gens, mais en contact. On aime bien le contact, en général. C'est un privilège, ça, cette proximité. Le souffrant est souvent en perte de ça. Assemblée pour rompre le pain, l'Église a des projets, et donc on a des choses à faire, à poser. Le souffrant, est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce qu'il agit en responsable? Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Dans les Épîtres, Phébé sert l'Église de Sancré. Et il est même dit de Phébé qu'elle est venue en aide à plusieurs, et même à Paul. Autrement dit, comme je l'ai dit hier, le seul ministère pastoral nommé, c'est une femme qui l'a. Hein, le seul ministère d'aide pastorale, hein, je ne parle pas de conduite d'église. Hein, parce que Pierre dit, moi qui suis ancien parmi les anciens, hein, dans Pierre 5. Mais je veux dire, le seul ministère d'aide pastorale, c'est Phébé qui l'a. C'est Phébé qui est nommée, hein, ça ne veut pas dire qu'elle soit la seule à le faire. Autrement dit, comment faisons-nous pour que ces ministères-là soient reconnus? Et beaucoup de souffrants ne savent pas à qui s'adresser. Et voilà, ils ne sont pas reconnus. Voilà. Donc, voilà, quelque chose duquel on pourra parler. Oui, mais ça évoque beaucoup de choses. En Romains 16, 4, il est question de toutes les églises des nations. Autrement dit, on connaît les églises. On en a une connaissance géographique. On sait, et les nations, hein, si on regarde la distance entre Jérusalem et Corinthe, hein, aujourd'hui on a l'avion, mais à l'époque, c'était quand même pas évident d'avoir des relations. Donc on prend peine à avoir ces relations. Et dans un sens, je suis content de rencontrer Marie-Christine ici, parce que ça travaille à nos relations qui ont déjà commencé il y a une dizaine d'années quand on s'est rencontrés à Lyon. Et donc, c'est important de pouvoir se connaître, de pouvoir savoir quelle est notre perspective. Qu'est-ce qui est le témoignage rendu au monde dans Jean 17, versets 20 ou 21? C'est qu'il soit un. Il est dit qu'il soit un afin que le monde croit. Et les souffrants souffrent beaucoup du manque de relations dans les églises. Je suis assez étonné du nombre de personnes qui me disent « dans mon église, ça va mal ». Autrement dit, on est à la fois... le souffrant est à la fois en difficulté personnelle et en difficulté dans un lieu où ça se bagarre, où ça s'énorgueillit, où ça se compare, etc.
Et au niveau de l'élation, ça peut être aussi frustrant pour les gens. Ils attendent l'un, l'autre, il y a toujours une relation autour de la parole. Tu sais, tu peux être accepté dans une église où il y a l'échange avec les gens, mais on ne sait pas comment tu vis, on ne sait pas combien d'enfants tu es, on ne sait même pas ton nom à l'église.
Oui.
Mais on prend la parole, on te balance ça devant le visage, tu sais, la parole, Dieu te dit ça. Et ces gens qui font ça, ils croient qu'ils sont en relation avec toi, mais en fait, toi, tu n'es pas en relation avec eux.
Voilà. Et peut-être qu'eux ne sont pas non plus en relation avec toi, et ils le savent. Hein, voilà, c'est très, très, tout à fait vrai, ça. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il est dit 4 fois cette expression, l'Église qui se réunit dans ta maison. Autrement dit, il y a une proximité qui est importante, hein, où on a une proximité avec les gens, et c'est quelque chose qui est à développer. Une proximité dans laquelle, en fait, il y a la puissance du Seigneur, qui est là pour travailler.
Parce que le terme l'église qui se réunit dans leur maison, c'est à rapprocher des églises de maison, des groupes de maison.
Alors, voilà, il faut faire la différence, à mon sens, entre ce qui est église et ce qui est rencontre ponctuelle ou voilà. L'église, pour moi, c'est un lieu ouvert aux chrétiens et qui n'est pas potentiellement limité. Quand, par exemple, il y a des groupes de femmes, des groupes comment dire, de gens qui se connaissent entre eux, des groupes qui vont dire ben, « nous, on accepte d'être 20 personnes, mais, etc. » Alors là, je ne crois pas qu'on puisse prétendre à une vie d'église. Une vie d'église, c'est une vie ouverte. Hein? Quelque part, l'église doit être ce lieu où le chrétien peut venir. Hein? C'est pour ça que nous sommes appelés réunion chrétienne. C'est l'endroit où les chrétiens viennent se retrouver. Donc, je crois que l'église est un lieu public. Et d'ailleurs, dans la loi française, l'église doit être déclarée comme lieu public et doit avoir un lieu qui est apte pour recevoir du public. Hein, c'est pas anodin, en fait. L'église est un lieu dans lequel le public peut venir. Et j'ai une là, on est plus dans le dogme que dans la pratique pastorale, mais ça fait rien. Hein, ça peut aider aussi, parce que ceux qui souffrent ont des questions à poser. Quelle est la différence entre le groupe et l'église ? Eh bien, il me semble que quelque part dans le groupe, il y a toujours quelqu'un qui est décideur. Dans l'Église, c'est l'Église qui décide. Quand, voilà, si on regarde les choses de cette manière, ça ne marche pas trop mal, je trouve. Par exemple, quand on doit modifier l'horaire de la rencontre. Alors, quand c'est le décideur dans un groupe, le décideur dit, tiens, par exemple, dans le groupe de mardi après-midi, hein, dans lequel Pierre et moi participons, ça se passe dans mon bureau, et ça fait des années que ça se passe à 14h30, si au bout d'un moment je dis, écoutez, pour des raisons de programme, j'aimerais qu'on le fasse à 14h, je veux dire que j'ai une légitimité parce que je suis initiateur, responsable, et c'est chez moi. Mais pour que ça se fasse dans l'église, là, c'est une autre paire de manches. Je veux dire qu'il faut que l'Église, que le Conseil, etc. C'est voilà, voilà. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, il y a une grande différence entre l'Église et le groupe.
Mais ne crois-tu pas que le modèle que nous présente Dieu dans sa forme de groupe, c'est la famille. C'est-à-dire qu'il nous inciterait à prendre comme modèle la famille ou la façon dont Jésus était avec ses disciples. On est quand même sur des formats de petits groupes, même si le groupe appartient à une société, à un village, etc. La famille, il y a ce côté d'intimité, et je trouve que dans le partage de sa foi, il y a quelque chose de drôle, de l'intime. C'est-à-dire qu'on ne partage pas, je ne vais peut-être pas partager toute ma vie avec n'importe qui, avec des gens que je ne connais pas trop bien. Je pense que le souffrant, il est particulièrement sensible à ça. Et moi, j'aurais envie de dire que l'Église, dans la façon dont idéal, justement, c'est un groupe intime. Un groupe à la fois ouvert, mais intime, c'est-à-dire petit, dans lequel mon identité est vraiment respectée, et elle est respectée parce qu'on est peut vraiment avoir sa place, plus que dans un grand groupe. Dans le grand groupe, on a beaucoup plus de difficultés à trouver ça.
Je pense qu'on ne peut pas avoir le beurre et le prix du beurre. Dans le grand groupe, il y a des possibilités que n'a pas le petit groupe. Dans une église de 200 personnes, tu veux faire une chorale, ça marche. Quand tu as 20 personnes, ça ne marche pas.
Déjà, est-ce que la chorale, c'est l'essence du groupe?
Mais attends, la chorale, c'est vachement important.
L'église, la finalité, effectivement, ça peut être une chorale.
Tu ne peux pas avoir le beurre et le prix du beurre. Hein, quand tu as 20 personnes, il y a beaucoup de choses plus faciles. Il y a beaucoup plus de proximité. Par exemple, moi, je suis très, très content qu'on soit un groupe d'une dizaine de personnes. Très content. Mais quand il y a 50 personnes, je suis très content aussi. Parce qu'il y a d'autres potentialités.
Je pense qu'il y a, j'essaie de comprendre un peu, effectivement, il y a le fonctionnement qui est très différent que tu as vu. C'est intéressant d'être dans un groupe, il y a quelqu'un qui décide plus ou moins. Dans un groupe, les autres. Dans une église, il y a plusieurs, il y a un conseil. Là où les difficultés se présentent, c'est que quand on est en face d'un conseil, ça veut dire qu'on est en face de peut-être 10 personnes ou 5 personnes. Donc, souvent, le problème, c'est nous encore, parce qu'on n'accepte pas forcément ce fonctionnement où il y a beaucoup de gens qui dictent, qui dirigent, qui prennent des décisions, mais nous sommes d'accord. Que dans un groupe maison, tu as accepté la personne qui a cette responsabilité. Dans ton cas, tu l'as accepté. Tu aimes cette personne pour que tu aies une relation avec. Les gens qui sont là, tu as une bonne relation, tu as ta place. Mais dans une idée, c'est un peu différent. Parce que dans la mesure, tu as deux personnes qui font la relation, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Il suffit qu'il y ait une personne qui ne passe pas dans la relation ou deux personnes qui ne passent pas.
Mais il ne faut pas comparer un bus et une moto. Hein, voilà. Le petit groupe, c'est la moto. Et l'église de 200 personnes, c'est le bus. Mais chacun a son utilité. On ne peut pas avoir le beurre et le prix du beurre. Tu ne peux pas être à la fois un bus et une moto. Mais quand le souffrant souffre de la moto, hein, par exemple, je suis le lundi de 10 à 11 quelqu'un qui me dit, dans l'église que je fréquente, on est 40, eh bien, je ne trouve personne pour me marier. Pourquoi tu dis oui mais?
Non.
Tu comprends? Voilà, ne dis pas oui, mais c'est le problème du souffrant qui est dans une petite église et qui dans sa région ne trouve personne. Pourquoi tu dis ça? C'est pas chic de dire ça. C'est son problème, c'est sa souffrance en fait. Tu comprends? C'est sa souffrance. Si elle était dans une église où il y a 200 personnes, elle n'aurait pas cette souffrance-là. Donc je veux dire que il y a c'est pour ça que moi je reste dans mes fondamentaux. Je suis pas dans le cas particulier. C'est-à-dire que le fondamental, c'est... Pardon ?
On est dans un cas particulier d'une personne qui cherche à trouver un partenaire pour le
présent. Toi, tu es en train de militer pour l'église de petit nombre. Toi.
C'est une réaction par rapport...
Voilà. Toi. D'accord ? Moi, je ne milite pas. C'est-à-dire que le fondamental, c'est vivons l'église. Qu'elle soit en petit nombre ou en grand groupe. Mais on ne peut pas dire, en fait, c'est bien ou c'est pas bien.
Mais on voit le fond dans le garage, il faut l'avoir tous les deux.
Mais pourquoi pas?
On voit pourquoi les deux, pas. Toi, comme lui, il essaye de défendre un type maison. Et toi, tout à l'heure, tu as dit un courage, c'est important.
Mais moi, je ne défends pas. Moi, je suis d'accord avec lui. Et toi, tu discutes à Ayla. Il faut dire que restons dans les fondamentaux. Hein, voilà, ça sert à rien de se perdre dans des trucs. Voilà, le fondamental, c'est que l'important, c'est de s'impliquer dans l'Église, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Et les souffrants se perdent dans un ensemble de choses. D'accord? Tout à l'heure, tu lui demanderas ce qu'il vit dans l'Église. Hein, voilà. Et je crois qu'il ne faut pas se perdre, en fait. Il ne faut pas se perdre. Et ça demande de la fermeté, en fait. On aurait toutes les bonnes raisons... en fait, de critiquer notre église. Mais ne la critiquons pas. Moi, j'ai été élevé dans une église de 450 personnes. Bon, j'en ai vu les côtés douloureux, en fait. Douloureux. Hein, de clans, etc. Donc, ok, et j'ai été élevé aussi dans une église de 14 personnes. J'en ai vu les côtés douloureux. Et j'en ai vu les côtés très agréables de 14 personnes au Maroc. On était 14, j'ai passé 3 ans. Et après, à Lyon, j'ai passé 3 ans, 450 personnes. Bon, ok. Mais je veux dire que derrière tout ça, il y a les fondamentaux de s'impliquer dans l'Église. Le problème, ce n'est pas d'être petit nombre ou grand nombre. Le problème, c'est qu'est-ce que je suis appelé à y faire? Voilà, ça, je voudrais le. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, 4, Paul s'adresse à ceux qui sont peu estimés. Non, il parle de ceux qui sont peu estimés dans l'Église. Hein? Et il dit, si vous voulez régler les procès entre vous, c'est tellement simple que demandez à ceux qui sont peu estimés dans l'Église. Tu dis? Ça surprend, hein? Voilà. Comment dire, il y a des tensions, c'est clair. Mais vivons les tensions. Vivons, hein? Avançons avec ça. Et ce n'est pas un problème d'être beaucoup estimé, peu estimé. Encore une fois, attention à ne pas trop dépendre du regard des autres. Nous soyons dans ces fondamentaux-là. Moi, celui qui m'estime, comme on l'a vu hier soir, c'est Dieu. Je reconnais que ce n'est pas facile. Je reconnais, mais encore une fois, voilà, il faut, nous avons pas à nous battre, mais nous avons à combattre pour la vérité, pour l'amour, pour le respect des gens, pour avancer sur des choses qui sont importantes. L'aspect public de l'Église, c'est ces répétitions dans Corinthiens, hein, quand vous vous réunissez en Église. Waouh! C'est vraiment l'insistance, hein. L'Église tout entière se réunit ensemble. Ça, c'est une lecture très littérale, c'est moi qui l'ai traduit comme ça. Hein, hein, très littérale dans Corinthiens, chapitre 14, verset 23. C'est plutôt ça, c'est plutôt 1 Corinthiens 11, 19, ou un truc comme ça. 14, 23, c'est ça? D'accord. Donc, voilà l'importance de l'ensemble des personnes qui sont là, hein, avoir tout le monde. Et souvent le souffrant, quand il voit rentrer quelqu'un, il dit, oh là là, non, pas lui, pas elle. Hein? Donc, en fait, savoir discerner, en fait, hein, savoir discerner les souffrances et savoir prendre les souffrances dans ce qu'elles sont. Quand ce qui est dit ne construit pas, savoir le dire. Savoir aussi avoir des caps. 1 Corinthiens 16, 1, j'en ai ordonné ainsi aux églises de Galatie. Savoir finalement suivre dans un sens ce qui a été décidé par l'Église, parce qu'il ne faut pas que ce soit l'anarchie. 2 Corinthiens 8, 19, je crois qu'il est question de Tite, hein, il a été choisi par les églises. Ok, il a été choisi. De toute façon, si moi, celui qui a été choisi n'est pas strictement de mon goût, ben. Dans un sens, c'est pas forcément un problème, mais si j'y place toute ma jalousie, toute ma contradiction, ben ça marche plus. Continuons à ici, on est allé un peu dans l'Église de manière précise, de manière pratique, mais regardons les choses d'un peu plus haut. Jésus-Christ est chef sur toute chose donnée à l'Église, nous dit Éphésiens 22. Il est chef sur toute chose donnée à l'Église. Elle va bien, l'Église, en ce moment? Pardon? Elle va pas bien? C'est-à-dire que quand on regarde que Jésus est chef sur l'Église, qui est-ce qui ose dire qu'elle va pas bien, franchement? Franchement.
Franchement.
Mais le chef est souverain. Alors, tu as raison de souligner un aspect du dysfonctionnement. Mais si le chef qui est souverain laisse faire qu'elle désobéisse, alors c'est qu'il a aussi son idée. C'est-à-dire que là encore, tu dis, il nous laisse libre. Hein? Le chemin de la liberté, il est bordé de deux caniveaux. Vous savez, c'est le rigorisme et le laxisme. Le rigorisme, c'est de dire rien ne va, et le laxisme, c'est de dire tout va bien. On est d'accord. Mais en attendant, si Jésus-Christ est chef sur toute chose donnée à l'Église, quand on dit dans mon Église, en fait, ben, n'y a rien de bon en fait. Hein? Hein? Eh oui, mais le Christ, il a donné dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs et des évangélistes en vue de la perfection des enfants de Dieu. Il l'a fait ou il n'a pas fait? Mais dans mon Église, il y a un mauvais enseignement. Alors je crois que là, du point de vue global, on voit comment le souffrant peut se tromper. Et je le sais bien parce que j'ai participé et je ne veux pas participer à cette souffrance que j'induis en moi-même. Si Jésus-Christ est chef sur l'Église, alors il fait quelque chose qui est bien. Et en plus de ça, il le fait avec amour, puisque Éphésiens 5, 29, il chérit l'Église. Seigneur, pourquoi m'as-tu donné un frère comme celui qui est en face de moi ou à côté de moi? C'est bien compliqué tout ça. Et donc, je voudrais attirer l'attention comme on est capable de générer des souffrances de différentes manières avec tout ça. Alors que finalement, il y a des choses très simples. Jacques 5, verset 14, que le malade appelle les anciens de l'Église. Voilà, ça c'est simple. Hein? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Il n'y a pas de malade? Hein? Quand est-ce que je suis malade? Quand est-ce que je ne le suis pas? Mais pourtant, le Seigneur nous appelle à faire des choses simples, en fait. Mais nous, on s'embarrasse avec quantité de... Voilà. Quelle est la place des hommes et des femmes? Hein, alors que Paul dit en 1 Corinthiens 11, 3, car je veux que vous sachiez. Et je pense que 1 Corinthiens 11, 2 à 19 est peut-être le passage ecclésiastique le moins commenté dans les églises. 1 Corinthiens 11, 2 à 19. Là, c'est 1 Corinthiens 11, 3. Hein, je pense que c'est le passage dans lequel l'Église ne se risque surtout pas. Hein? Hein? Et donc, on pourrait le poser, on n'est pas obligé de dire on est arrivé à le comprendre, mais on pourrait en tout cas y rentrer et avoir ce courage. Pourquoi? Ben parce que, justement, à chacun est donné la manifestation de l'esprit. À chacun. On a tous peut-être un avis à dire et il faudrait qu'on pose les choses et qu'on se donne les moyens d'entendre, de recevoir. Alors, une autre réalité de souffrance aussi, c'est que quelqu'un me dit, moi, j'ai reçu un don de parole de connaissance. Et je dis, mais comment est-ce que tu peux être certain ou certaine que dans 2 ans, tu auras encore ce don? Alors déjà, personne ne me regarde, me dit, mais tu changeras jamais, tu es toujours aussi provocateur et méchant. Hein? Et je dis non, mais à chacun est donné quoi? C'est pas la parole de connaissance qui est donnée. C'est pas la parole de connaissance qui est donnée. C'est la manifestation de l'esprit. Et 1 Corinthiens 12, 11 dit que l'esprit distribue à chacun ce qu'il veut dans le particulier. Autrement dit, ce qui est donné, c'est la manifestation de l'esprit. Donc nous avons tous quelque chose qui relève en nous de la manifestation de l'esprit, mais moi je ne peux pas dire si demain je ferai ça ou je ferai ça. Je peux dire qu'il m'est donné la manifestation de l'esprit, mais je ne peux pas dire que mon ministère, qui est le métier, hein, qui est la mise en œuvre de ce que je vais faire, soit pérenne. Hein, il va peut-être s'arrêter, hein, Madame le Major. On ne sait pas en fait. Hein. Hein, on sait, oui?
La suite, il semble qu'après c'est explicité. Ça,
Oui.
c'est une présentation globale, manifestation de l'esprit. Après, il y a écrit à chaque fois donné, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à l'un autre la parole de connaissance.
Voilà.
Donc, est-ce
Donc,
que c'est pas.
dans la manifestation.
c'est pas dit que quoi?
Est-ce que c'est
Et voilà. C'est pas dit que c'est pérenne, c'est pas dit que c'est caduque. On ne sait pas. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est donné. On est d'accord ? Donc, je veux dire que on parle de nos fondamentaux. Pourquoi les gens souffrent ? C'est qu'ils disent, mais ah, moi, j'ai un don de prophète, mais il n'est pas reconnu. C'est ça la souffrance des gens. Et pourquoi est-ce qu'ils souffrent ? C'est parce qu'à mon avis, ils disent, moi, j'ai un don de prophète. Ils devraient plutôt se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'appelle à faire ? Là, ils ne souffriraient pas. Hein ? Vous voyez, comme c'est pas que je veuille avoir raison, ou je reste sur mes fondamentaux, en fait. Hein ? Je reste sur ce qui m'est donné. Si je suis vraiment sur ce qui m'est donné, alors je ne tourne jamais en porte-à-faux. Toi, Guillaume Argot, c'est quoi ta spécialité ? Moi, c'est de manifester l'esprit. C'est un peu trop général ce que tu me dis là. Et oui, mais moi, je ne sais pas quelle est ma spécialité, en fait. Hein, dans l'église que je fréquente, j'ai fait le ménage pendant 5 ans. Voilà. Ben oui, exactement. Et c'est une sécurité. C'est une sécurité. Et quand le souffrant vient et dit « je suis inutile dans l'église », je lui dis, mais manifeste, toi, tu as le don de l'Esprit de Dieu, fais ce que tu as à faire. Mais tu ne peux pas me dire ce que j'ai à faire ? Il n'y a que toi qui le sais, mon pauvre.
Et s'il ne le sait pas ?
Et s'il ne le sait pas, c'est qu'il peut-être il n'est pas assez à l'écoute. Et lui expliquer justement ses fondamentaux de la notion de conscience dont on a parlé hier soir, de la notion de discernement de la volonté de Dieu. Est-ce que tu crois Dieu ? Est-ce que tu n'es pas trop en train de croire les autres ? Est-ce que tu n'es pas en train de te demander de savoir ce que tu dois faire demain, alors que c'est aujourd'hui, en fait, qui est important ? Par exemple, mais de l'aider à discerner, voilà. Et l'important de l'Église, l'essentiel de l'Église, c'est que Dieu soit présent parmi nous. Hein, Corinthiens 14, 25, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Il s'agit là du prophète qui donne une prophétie, au lieu d'en parler en langue, nous n'est 1 Corinthiens 14. Et l'essence de l'Église, c'est que Dieu soit présent. Ah, j'ai pas aimé la prédication. Oui, mais est-ce que Dieu était présent ? Ah, je suis en bisbille avec telle personne. Oui, mais est-ce que tu es venu rencontrer Dieu ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de fort à ce moment-là ? Hein, la raison du souffrant, la raison fondamentale, c'est peut-être d'oublier quelque chose. Donc on a vu finalement des points très pratiques ou très précis de l'Église, on a vu des points plus globaux. Et maintenant on voit des points extérieurs, à quoi sert le groupe ? Pourquoi est-ce que Dieu nous appelle à vivre les choses ensemble ? Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Est-ce qu'une vie personnelle avec Dieu ne suffit-elle pas ? On m'a dit, il n'y a pas longtemps, avec des chrétiens très, 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 très engagés, je pense à quelqu'un de précis, hein, qui m'a dit il y a 2 mois, hein, le futur de l'Église, c'est d'être impliqué individuellement. Le schéma actuel de l'Église qui se retrouve est dépassé. Aïe, aïe, aïe. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et on est dans... Ça, c'est un peu la pollution de notre société qui nous appelle à être des individualistes forcenés. Et on va être des individualistes dans l'Église. Et on va souffrir de plus en plus, justement à cause de ce que Pierre montrait tout à l'heure. L'Église devrait être un vrai... un lieu de rencontre, de connaissance, où on argumente, on s'oppose, on se frite, mais c'est bien de se friter. Hein, c'est pas trop, hein. Hein, voilà, surtout quand l'huile est trop chaude. Hein, voilà. Hein, et donc, à quoi sert le groupe ? Eh bien, l'Église doit donner à connaître, Éphésiens 3, 10, aux principautés, aux autorités, la sagesse de Dieu. Waouh ! Autrement dit, nous avons quelque chose à montrer à ce monde invisible de la sagesse de Dieu. Ben dis donc, quel programme ! Et donc l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Et justement, avec ce côté collectif qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14, 11 et 14, quand vous vous réunissez, l'Église entière, etc. Hein, il y a un programme, il y a une présence de Dieu, il y a quelque chose qui est lié, à mon sens, à une présence régulière et complète des chrétiens. Quelqu'un d'autre dira, moi j'aime bien chanter, louer Dieu, les réunions de culte me conviennent bien pour cette raison. Les réunions où on étudie la parole ou on prie ne m'attirent guère. Bon. Mais l'Église, nous dit 1 Timothée 3,15, est la colonne et le soutien de la vérité. La vérité, c'est que Dieu est présent, on le prie. La vérité, c'est que Dieu parle et Dieu dit des choses qu'il nous faut garder comme cap, comme ce que j'appelle les fondamentaux. On les étudie. Et finalement, il y a un peu une notion de facilité là-dedans. Hein, le souffrant qui dit « les réunions où on étudie la parole, où on prie, ne m'attirent guère », c'est que c'est vrai que c'est plus difficile de combattre par la prière. Épaphras combat pour vous par la prière. Dans la prière, il y a quelque chose qui nous est peut-être facile pour certains, mais qui est peut-être un lieu de tension, en fait. Hein, la sixième arme de l'armure hein, du chrétien, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et il est dit « priant par toutes sortes de prières ». On a l'impression que quand on parle, hein, l'épée de l'esprit qui a la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières. Hein, que finalement, quand nous nous adressons à Dieu de manière ouverte et publique, il y a quelque chose de très très important qui se fait.
Et pourquoi nos réunions de prière sont si peu suivies ?
Voilà. Et je pense qu'en proposant à l'Église que les gens qui s'impliquent dans l'Église viennent, ça titille, mais ça, on est vraiment... ça serait très heureux que tout le monde lève la main, justement. Et que tout le monde lève la main et qu'on fasse, par exemple, une consultation dans l'Église en disant comment peut-on faire la réunion de prière pour que tout le monde puisse y venir ? Voilà. Et donc, là, il y a un véritable projet d'Église pour la réunion de prière, qui pourrait découler de ça, bien sûr.
Et une petite question sur la réunion de prière, peut-être que vous pratiquez. Quel sujet vous abordez ? Est-ce que c'est un sujet personnel ? Ou c'est... est-ce que vous priez plus pour des missions ?
Il y a de tout.
Moi, personnellement, je prie pour des cas très précis en nommant les personnes. C'est
vrai qu'il y en a
qui
restent dans la généralité. Quoi. Dans l'église, ou le pays du monde. Alors que bon,
il y a de tout.
Ce que je me demandais, c'est le manque de fréquentation des prières n'est pas aussi le fait que parfois on est un peu dans une prière auditive, une prière dans laquelle on n'a pas véritablement ses difficultés. Mais c'est une question.
Soit de personnes, soit d'église, soit de mission, soit c'est très varié. Et ensuite, dans les prières, ben, il y a une diversité extrême. Et donc, c'est jamais les mêmes pour les mêmes sujets. Et donc, ben, c'est soit des besoins personnels, soit des besoins des personnes de l'église, de l'église locale, soit des besoins de mission.
Il y a tout.
Et
même dans un moment. Parce que je me souviens, un jour, il y avait une sœur qui était très malade, qui s'était opérée, vous savez, l'église. Et on avait abordé justement ça avant la prière, des sujets. Moi, je parlais de cette sœur qui souffrait. Et quand les gens ils ont prié pour la femme de l'ancienne qui va aller en vacances, que Dieu le protège. Et dans ce moment de prière, il n'y a personne qui a pensé à cette sœur qui était à l'hôpital. Moi je pensais, parce que je prie, mais en même temps, c'est un peu une personne qui va en vacances, quoi, laisse la partir, quoi, tu vois.
Et non, il faut que ça soit gardé, que l'hôtel soit bien, que l'eau chaude et
tout. Non, mais tu vois, la souffrance des fois.
Mais la réunion de prière, c'est la somme de la prière de chacun. Donc si quelqu'un a oublié la personne, si la personne qui a prié pour ceux qui partaient en vacances vient d'avancer, il y a quelqu'un d'autre.
Pour la même personne qui partait en vacances, quoi.
Alors, on continue avec l'attente de Dieu. Hein, et je dis quelle est notre mission dans notre quartier, dans notre ville. On a vu avec Jacques hier après-midi que le service religieux, pur et sans tâche, nous dit Jacques, est de visiter la veuve et l'orphelin. Hein, et donc là, dans 1 Timothée 5,16, c'est assister les veuves. Autrement dit, je crois que le travail social est un travail essentiel, mais un beau travail, un travail de terrain. Et avec Pierre, on est à Radio Dialogue, et moi j'entends beaucoup ce que font quantité de personnes, et notamment dans l'Église catholique, avec des œuvres nombreuses et très très belles, c'est magnifique. Hein, voilà, tout un travail de terrain, et je crois que c'est ça, c'est aussi la visibilité de l'Église. Est-ce que nous nous rassemblons pour Dieu, pour nous, pour les gens du quartier, pour autres, disent, m'a-t-on posé comme question. Et je pense qu'on est aussi là pour chanter les louanges de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chanter les louanges de Dieu? C'est un peu, peut-être une expression un peu à décrypter. Moi, je ne crois pas que Dieu ait besoin de nous pour qu'il entende qu'il est grand. Il le sait. Il n'a pas besoin de nous pour qu'on raconte qui est son fils. Il le connaît beaucoup mieux que nous. Je pense que, par contre, que nous disions à Dieu ce qu'il retentit en nous, ce qu'il est pour nous, dans quelle mesure est-ce que nous l'apprécions, comment est-ce qu'il a été, lui, à la clé de notre délivrance, de notre progrès, de notre béatitude. Alors voilà, là il y a quelque chose qui touche Dieu. Et je pense que quand on verra Jésus les yeux dans les yeux, et quand on lui dira, écoute, voilà, là et là et là, hein, tu m'as révélé, tu m'as montré dans le film de ma vie, etc. Ah, c'est génial, je vais me souvenir de ça. Hein, un peu comme quand on se connaît depuis quelque temps, hein, on peut se rappeler de bons souvenirs qu'on a pu avoir ensemble, et on est heureux d'avoir vécu ça, et on est heureux de se retrouver, il y a toute une relation de qualité qui se produit. Hein, voilà pour moi ce qui peut être la réalité collective. Ce qui est un peu compliqué, c'est que dans cette réalité collective, comme ça a été un peu dit, il faut que chacun soit représenté, en fait. Hein, il faut que tout ce qui ressorte des louanges de Dieu soit... que chacun se sente concerné dans la réunion de prière, comme dans d'autres rencontres. Et donc, quelqu'un me dit, je cherche une église où je me sens bien, qui corresponde à ma sensibilité, où je puisse m'épanouir. Est-ce que c'est un objectif juste et selon Dieu? Moi, je pense que l'important, ce n'est pas que je me sente bien. L'important, c'est que je serve. L'important, c'est que je serve Dieu. L'important, c'est que je sois avec Dieu et que je puisse faire des choses pour Dieu par appel dans l'Église. Après, ce que je ressens, si je fais ce que Dieu me demande, forcément, je ressentirai de bonnes choses. Hein, Jacques dénonce, il dit, Jacques 4, d'où viennent les conflits parmi vous? N'est-ce pas à cause de vos voluptés? Du grec, hédon, l'hédonisme. Hein? Se sentir bien, c'est de l'hédonisme pour moi. Hein? Ce qu'il faut, c'est entendre l'appel de Dieu à être avec lui et à faire quelque chose avec lui. Alors là, ça marche. Et j'aime bien cette expression donc, de 3 Jean verset 6, ceux qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Autrement dit, on est là pour parler ensemble et on se rend compte qu'il y a des choses très belles qui se font. Et là, il y a de l'amour, et là tu dois être gratifié, en fait, parce qu'il y a de l'amour, il y a des bonnes choses qui se font. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées dans les difficultés de l'Église? Oui. Oui. Alors, ça vient juste après, ne méprisez pas les prophéties. Hein? N'éteignez pas l'esprit. Hein? Sauf, je crois que ça doit être ça. Hein? Voilà, hein? C'est lié. Hein? Voilà. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une... comment dire, dans cette pièce, on y voit parce qu'on a ouvert les volets. Et donc, quand on ouvre les volets, ce qu'on voit, on en tient compte.
De la même manière, quand on s'attend à ce que l'Esprit de Dieu nous parle, il faut en tenir compte. Hein? Et éteindre l'Esprit, c'est dire, oui, j'ai entendu ce que l'Esprit a dit, mais bon, je suis occupé. Et Jésus a parlé des soucis du siècle, de la terre qui a été piétinée, etc. Hein? Et donc, je crois que... c'est une souffrance, effectivement, de quelqu'un qui, finalement, a entendu, hein, Dieu parle une fois et deux fois, et l'homme n'y prend pas garde. Et puis après, ben, il y a une espèce de béance, hein, où Dieu parle moins, ou en tout cas, la parole de Dieu n'est pas entendue, et donc ça pose des problèmes importants. Partout là où tu seras, ça ne se produira pas. Parce que tu es réveillé. Partout là où tu seras, ça ne se produira pas parce que tu es réveillé.
Mais c'est intéressant ce qu'elle dit là, parce que moi je pense aussi que si on éteint l'esprit, on ne voit plus la vision de Dieu. Parce que la Bible dit quand même que c'est l'esprit qui nous révèle les choses de Dieu. Et si on est dans un groupe, on éteint, enfin, l'esprit éteint à quelque part, ben, on doit prier toujours avec la volonté de Dieu, quoi. Hein, toujours dans la volonté de Dieu. Et du moment où l'esprit est éteint, ben, c'est fini, on ne voit plus la vision de Dieu, on est bien structurel.
Mais je ne pense pas qu'on puisse dire, nous, hein, moi, à un moment donné, l'esprit est éteint. Il n'y a que Dieu qui puisse, tu vois. Jésus, qui avait cette église dans sa main, dit « J'enlèverai ta lampe ». Mais c'est Jésus. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais dire que mes frères et sœurs ne sont pas spirituels.
Est-ce qu'elle veut dire, je ne sais pas si c'est bien ça, n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire que moi, je suis dans un mauvais état. Est-ce que je vais faire subir la conséquence sur mes frères et sœurs dans mon église? C'est grave.
Je pense que celui qui reconnaît qu'il est dans un mauvais état, il est spirituel.
Il y a un péché non jugé.
Voilà, c'est ça dur, on va dire.
Tout le monde.
Oui,
si tu es là, non. Vous voyez, je suis sur mes fondamentaux, là. C'est-à-dire que pour moi, ceux qui relèvent de ma responsabilité, hein, voilà, je refuse de chanter le cantique 243 comme les vierges de la parabole, Seigneur Jésus, nous sommes endormis. C'est-à-dire que si tu es endormi, tu ne chantes pas. D'accord.
Ça me rappelle une
sœur âgée qui supportait ta situation.
Voilà. Et donc, en fait, occupons-nous de ce qui est de notre responsabilité. Il ne faut pas dire l'Église est morte. Non. Tant qu'on y est, on s'habille. En fait, après, ce que vivent les autres, eh bien, c'est ce que vivent les autres.
J'aimerais juste revenir sur les noms qui sont donnés, tu as dit Église, Assemblée, Réunion chrétienne. Le nom qu'on donne, c'est pour aussi se positionner vis-à-vis du monde et des gens extérieurs. Et il me semblait que dans le mot église, pour le monde, de notre société, le mot église, ça fait appel à Dieu, ça fait appel aussi à l'Eucharistie ou à la Sainte Cène. Et alors que le mot assemblée ou réunion, c'est-à-dire réunion professionnelle, que des assemblées,
c'est laïque.
Et il me semble que c'est le seul mot église vis-à-vis de notre société, du monde qui nous entoure, à cette notion de Dieu et de souvenir, de symbole, du rappel de la mort de Christ.
C'est pour ça qu'assemblée chrétienne, c'est plus complet. Hein? Oui. Assemblée de Dieu, comme disent les pentecôtistes, c'est plus complet. Mais voilà, après, il faut effectivement réfléchir. Oui. Dans les sujets que nous n'avons pas abordés, il y a, par exemple, comment être membre de l'Église. Hein, et il y a des souffrances qui se posent à ça. On me dit qu'il faudrait que je parle en langue. Hein, qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Hein, voilà, il y a. Mais on est dans le dogme, mais c'est. Mais je dis qu'il y a des questions auxquelles il faut que nous sachions répondre, et que nous sachions répondre Bible en main, hein, avec avec précision. Une autre question aussi, c'est quelle est la traduction biblique qu'il faut utiliser? Parce que, je ne sais pas si vous avez, nous, au bureau, là, le mardi à 2h30, moi, ça m'intéresse bien d'écouter des personnes qui ont une autre traduction, lire le texte. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont perdus avec ça. Et donc, c'est bien d'avoir cette ouverture d'utiliser plusieurs traductions. Il y a un moment donné où ça ne marche plus, en fait. Hein. Et c'est pas que ça soit différent, mais c'est que quand on ne sait plus où en est la lecture, et puis on s'arrête sur un mot, du coup on n'écoute plus le reste, ça reste compliqué. Et donc, je pense que choisir une version particulière pour l'Église, c'est aussi quelque chose d'important. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de ces expressions qu'on utilise pour les types de traductions, hein, donc les traductions littérales et les traductions à équivalence dynamique. Alors, les traductions littérales, ce sont des traductions qui essayent le plus possible d'être dans la précision du texte original. Par exemple, la Bible à la Colombe est une traduction qui est dite littérale. La traduction à équivalence dynamique, c'est par exemple la Bible du Semeur ou la Bible en français courant. Oui, c'est ça, la Bible en français courant. Et donc, dans ces traductions, on n'hésite pas à donner le sens supposé du verset en ajoutant des mots, par exemple. Hein? Je prends un exemple, dans la Bible du Semeur ou en français courant, au lieu de dire « toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu », Romains 8, 28, ils disent « l'Esprit de Dieu fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est le chapitre de l'Esprit. Donc, fondamentalement, ce n'est pas faux. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, moi, je suis très à l'aise. J'ai lu entièrement la Semeur en un an et j'ai été content et ça m'a fait du bien. Je pense que c'est la Semeur qui m'a permis de sortir de la difficulté dans un premier temps du livre de Job et des psaumes, avec un français plus facile. Mais le problème, c'est que si on regarde de près ce que dit la Semeur, si on veut faire vraiment une étude biblique, comme dit Christiane, tu te dis, waouh, il y a des moments où dans le texte, tu te dis, ça rajoute des choses au texte biblique et ça pose quand même un problème d'exégèse, de compréhension du texte.
Je voulais juste revenir sur le chant. Il me semble que le chant est sur la terre le seul moyen d'exprimer la communion de l'Église et de le vivre. Et c'est vrai que je trouve que c'est...
Moi j'ai dit ça ?
Pour moi le chant c'est la langue du ciel.
Tu veux dire que moi j'ai dit ça ?
Tu nous as parlé.
J'ai pas dit que c'était le seul.
Non, mais moi je trouve que c'est le plus fort.
Mais j'ai dit que la chorale c'était génial.
Oui, mais je vais plus loin. Dans le culte, il me semble que le fait de s'exprimer, parce qu'on dit tous les mêmes paroles. Il y a déjà ça, on dit les mêmes paroles. Et on exprime ensemble, en communauté, la même chose à Dieu. Et je pense que moi c'est un peu la revue du ciel, non, ça ?
Je suis d'accord.
Parce que
pas d'accord sur l'expression avant-goût du ciel, parce que le ciel c'est définir, mais
tu vois ce que je veux dire. Moi, l'expression.
Non, mais attends, je passe entre nous, je chipote.
Je cherche. Mais il y a d'autres moyens.
Pardon ?
Il y a d'autres moyens, c'est pas le seul.
Oui,
mais c'est quand même quelque chose de très très central.
Une agape
fraternelle. La prière,
ouais, pour
le frère et la sœur, une agape fraternelle.
Ah, c'est pas pareil.
Ah, si, c'est très intéressant.
Tu ne parles pas.
Il y a partage.
Ah, si, c'est bon.
Mais c'est en
manger. Mais ce qui est bien, c'est que c'est en dehors du lieu de l'église et les personnes parlent beaucoup plus de leurs problèmes aussi. Et en même temps, tu manges la pascale, parce que tu ne dois pas pour autre.
Et justement, le moment du chant te sort de tes problèmes. Et là, tu as une relation à Dieu qui est sortie un peu de ton humanité, de toutes tes difficultés.
Mais elle a raison quand même sur le chant.
C'est vrai que c'est... J'ai pas dit qu'elle avait tort.
Je te remercie de lui.
C'est un beau jour. Non, j'ai parlé de la gamme parce que c'est 1h20 et on n'aura pas le plat du jour.
Ça, allez. C'est une bonne idée. Ça, c'est super. Merci.
Le plat du jour, c'est fini.
Hier, la patate, 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 la pat